Chapitre 36. Bassin méditerranéen. Sa vie roula environ une heure sur la route d'Argel Rouge, faisant pénétrer le rampeur dans les replis fertiles du bassin méditerranéen. La nuit était tombée, il pleuvait à verse, les éclairs zébraient le ciel et le tonnerre faisait vibrer le verre de l'habitacle. Profitant de la lumière de la foudre, Daeman désigna les croix porteuses de silhouettes humanoïdes.
« Qu'est-ce que c'est ? Des gens ?»«
Non, » répondit Savi. « Des Kalibani. » Avant qu'elle ait eu le temps de développer, Daeman lança
« Il faut qu'on s'arrête !»
Savi s'exécuta, allumant les feux ainsi que la veilleuse en même temps qu'elle ôtait ses lunettes à vision nocturne.
« Qu'y a-t-il ? »
s'enquit-elle en voyant le visage grimaçant de Daeman.
« J'ai faim !» dit celui-ci.
« J'ai 2 barres alimentaires dans mon sac.
Je meurs de soif !»«
J'ai aussi une bouteille d'eau. Et nous pouvons entr'ouvrir la porte et collecter de l'eau de pluie bien fraîche.
Il faut que j'aille aux toilettes !»
avoua Daeman.
« C'est urgent !»
Le rampeur dispose de certains équipements, mais celui-ci n'est pas du nombre. Je suppose qu'une petite pause ne nous ferait pas de mal. Elle pressa 2 boutons virtuels, et le champ de force cessa de protéger le verre de la pluie, permettant l'ouverture de la porte coulissante. L'air était frais et sentait les graminées mouillées.
« Il faut aller dehors ?» demanda Daeman sans dissimuler sa terreur. « S'exposer ?»
Dans le champ de maïs, les feuilles protégeront ton intimité.
Plongeant une main dans son sac à dos, elle y attrapa un petit tas de feuilles de papier qu'elle tendit à Daeman. Il le fixa d'un air éberlué.
« Une pause me fera du bien à moi aussi, » dit Arman en acceptant les feuilles que lui tendait Savi.
« Allez, Daeman.
Les messieurs à droite du rampeur et les dames à gauche. »
Il sortit de l'habitacle et emprunta l'échelle pour descendre. Daeman le suivit, tenant son papier hygiénique comme un talisman, et la vieille femme descendit à son tour avec nettement plus de grâce que lui.
« Il faut que j'aille à droite, moi aussi, »
précisa-t-elle.
« Pas trop près de vous, si vous voulez, mais pas trop loin non plus.
Pourquoi ?»
demanda Daeman, mais il vit qu'elle avait pris son pistolet.
« Oh !»
Elle passa l'arme à sa ceinture, et tous 3 s'engagèrent parmi les pieds de maïs, après avoir traversé un étroit fossé et une bande d'herbes boueuses. La pluie était battante.
« Nous allons être trempés !» gémit Daeman. « Je n'ai pas apporté de mes vêtements auto-séchants !»
Savi examina le ciel tandis qu'un éclair déchirait les nuages bas et que les échos du tonnerre résonnaient sur le bassin.
« Vos thermopots sont dans le sac à dos. Quand nous aurons regagné le rampeur, vous les enfilerez le temps que vos vêtements aient séché. »
« Qu'y a-t-il encore dans ce sac magique ?»
lança Arman. Savi eut un haussement d'épaule.
« 2 barres alimentaires, des chargeurs de fléchettes, une lampe torche et des cartes de ma confection, nos thermopots, une bouteille d'eau, un sweater de rechange, c'est à peu près tout. »
Quoiqu'impatient de se retrouver seul parmi les plants de maïs, Daeman marqua néanmoins une pause pour jeter un regard circulaire autour de lui.
« Cet endroit est-il vraiment sûr ?»«
En tout cas, il n'y a pas de Voynix par ici, » répliqua Savi. «
Et c'est... comment les appelles-tu déjà ?»«
Les Kalibani, » répéta Savi. « Pas besoin de s'inquiéter de ça cette nuit. »
Il opina et passa derrière la première rangée de maïs. Les tiges mesuraient presque 1 mètre de plus que lui. Les gouttes de pluie s'écrasaient bruyamment sur les larges feuilles. Il recula en hâte.
Il fait vraiment noir là-dedans.
Arman avait déjà disparu derrière le maïs et Savi s'éloignait dans la direction opposée, mais elle s'arrêta, fit demi-tour et tendit la lampe à Daeman.
Les éclairs me suffisent pour me diriger.
Daeman franchit 8 ou 10 rangées de plans, bien décidé à se retrouver suffisamment loin de la bordure du champ pour être totalement invisible. Puis il parcourut l'équivalent de 8 autres rangs par acquis de conscience. Ayant localisé un coin un peu moins boueux que les autres, il regarda tout autour de lui, cala la torche contre une tige afin que son rayon soit dirigé vers le ciel, il repensa brièvement à la colonne bleue de Jérusalem, baissa son pantalon, s'accroupit et creusa un petit trou de ses mains nues.
« Comment Savi a-t-elle appelé ça »
songea-t-il.
« Le camping ?» Lorsqu'il eut fini, et quel soulagement ce fut, en dépit des conditions barbares qui lui étaient imposées, il fit de son mieux pour utiliser le papier hygiénique trempé, constata qu'il n'arriverait à rien, le jeta dans le trou et sentit une boule dans la poche de sa tunique. Il en sortit le tissu soigneusement plié qui s'y trouvait en permanence. Son turin. Il étudia à la lueur intermittente des éclairs le lin finement tissé et les broderies de circuits imprimés grâce auxquels l'épopée était directement transmise à son cerveau. Au fil des ans, il lui était parfois arrivé de regarder les Troyens affronter les Achéens, mais après avoir rencontré le véritable Odysseus, si ce vieux barbu était bien le véritable Odysseus, ce qui semblait peu probable, Daemon avait perdu tout intérêt pour le Turin. Non seulement Odysseus avait couché avec l'une des filles que Daemon comptait séduire, à savoir Anna, mais en outre, il séjournait à présent au château d'Ardys, en compagnie d'Ada, la proie sur laquelle il avait jeté son dévolu. Il soupesa le splendide morceau de tissu.
Au diable !
Daemon fit du Turin un usage inédit, se réjouissant d'insulter indirectement l'arrogant Odysseus. Le jeta dans le trou, reboucha celui-ci avec un paquet de boue, remonta son pantalon, remit sa tunique en place, se lava les mains tant bien que mal sur les feuilles de maïs ruisselantes, puis ramassa sa lampe et parcourut les 2 douzaines de rangées qui le séparaient de la bordure du champ. Sauf que la dite bordure brillait par son absence. 3 douzaines de rangées plus tard, il conclut qu'il avait pris la mauvaise direction. Il se retourna, cherchant à déterminer la bonne. Il lui suffisait de rebrousser chemin en suivant ses propres traces de pas. Mais il était totalement désorienté et incapable de dire de quel côté il était venu. Quant à ses traces de pas, elles étaient introuvables. Les éclairs étaient de plus en plus violents, la pluie de plus en plus forte.
« Au secours !»
cria-t-il. Il attendit une seconde et, n'ayant obtenu aucune réponse, lança un nouvel appel.
« Au secours ! Je me suis perdu !»
Le tonnerre étouffa ses cris. Il tourna sur lui-même encore et encore, se décida pour une direction à suivre et se mit à courir parmi les plants, écartant les tiges de son chemin, les cognant avec la lampe torche. Il oublia de compter les rangées, mais il avait dû en parcourir une 50aine lorsqu'il fit de nouveau halte.
« Au secours ! Je suis par ici !»
Cette fois-ci, aucun coup de tonnerre ne vint couvrir sa voix. Mais il ne perçut pas de réponse pour autant. Et il n'entendit que le staccato de la pluie sur les feuilles et les épis, que les couinements de ses mocassins trempés. Il avança le long d'une rangée, cherchant des yeux une lumière, un mouvement, sans penser qu'il risquait de s'éloigner encore davantage de ses 2 compagnons. Au bout de quelques minutes, il dut s'arrêter pour reprendre son souffle.
« Au secours !»
La foudre frappa le sol à moins de 1500 mètres et le tonnerre déferla sur les plants de maïs comme une onde de choc. Daemon battit des paupières pour chasser les images gravées sur ses rétines et remarqua que la densité des tiges semblait moins importante un peu plus loin sur sa droite. Il devait être tout près de la bordure du champ. Il parcourut 15 rangées en courant et se retrouva dans un espace dégagé. Ce n'était pas la bordure par laquelle il était entré, mais une sorte de clairière de 10 mètres sur 6. En son centre se dressait une croix métallique qui dépassait de plus de 2 mètres les tiges de maïs. Daemon l'éclaira de la base au sommet avec sa torche. La forme n'était pas sur la croix, mais lovée dans la croix, au sein d'un creux découpé dans le métal, son torse nu inséré dans la colonne et ses bras nus dans les branches. Le rayon lumineux se mit à tressaillir, strié de 100aines de gouttes de pluie. Ce n'était pas un homme. À tout le moins, jamais Daemon n'avait vu un homme comme ça. La chose était nue et luisante, sa peau écailleuse et verdâtre. Pas comme un poisson, mais d'une couleur que Daemon avait toujours mentalement associée à celle d'un cadavre d'avant l'ère de la firmerie. Innombrable et minuscule, ses écailles étincelaient à la lumière de la torche. La créature était musculeuse, mais il y avait quelque chose qui clochait dans ses formes. Elle avait les bras trop longs, les avant-bras trop grêles, les poignets trop puissants, les phalanges bien trop larges, des griffes jaunes à la place des ongles, des cuisses trop musclées, des pieds étrangement aplatis ne comptant que 3 orteils. C'était un mâle, son pénis et son scrotum étaient d'un rose obscène sous son ventre plat et musclé, et on pensait, en le voyant, à une tortue ou à un requin pourvu de génitoires humains. Mais son large thorax, son cou serpentin et son crâne chauve n'avaient, eux, quasiment rien d'humain. La pluie coulait sur ses muscles, ses écailles et ses ligaments, gouttait sur le métal noir et rugueux de la croix. Ses yeux étaient profondément enfoncés sous des arcades rappelant à la fois le singe et le poisson, et son visage semblait orné d'un groin cerné de branchies plutôt que d'un nez. Sous ce groin, sa gueule était légèrement entrouverte, et Daeman y découvrit de longues dents jaunes, ni humaines ni animales. Elles évoquaient de monstrueux fanons, et une langue bleuâtre et bien trop longue qui se mit à frémir devant ses yeux horrifiés. Il leva un peu plus la lampe et faillit pousser un nouveau cri. Les yeux de la créature venaient de s'ouvrir, des yeux jaunes, des yeux de chat, mais sans ce semblant d'humanité qu'on s'accorde à trouver chez le chat, avec, en leur centre, une mince fente noire. La chose, comment sa ville avait-elle appelé, un Calibani, s'étira dans son nid cruciforme, ses mains s'ouvrirent pour révéler des doigts longilignes s'achevant par des griffes qui accrochaient la lumière, et son torse et ses jambes frémirent comme si elle se réveillait, s'étirait. Rien ne l'attachait à sa croix. Rien ne pouvait l'empêcher de sauter sur Daeman. Daeman voulut s'enfuir, mais il constata qu'il ne pouvait pas tourner le dos à la créature. Celle-ci tressaillit et sa main droite ainsi qu'une partie de son bras droit se détachèrent de la croix. Daeman vit alors que ses pieds palmés s'achevaient aussi par des griffes jaunes. Il entendit derrière lui un grondement, un rugissement. D'autres Calibani, libérés de leur croix, il en était sûr, et pivota pour leur faire face, levant sa lampe comme un gourdin et se retrouvant sans éclairage. Il glissa, à moins que ses jambes ne les trahissent, et tomba à genoux dans la boue. Il avait envie de pleurer, mais il ne pleura pas, il en était sûr, durant les quelques secondes qui précédèrent l'entrée fracassante du rampeur qui jaillit des plants de maïs telle une titanesque araignée, ajoutant sa présence monstrueuse à celle du Calibani sur sa croix. Ses 8 phares, réglés à leur puissance maximale, étaient aveuglants. Daeman leva le bras, mais comme il le comprit par la suite, c'était moins pour protéger ses yeux que pour dissimuler ses larmes de soulagement. Vêtus de leur thermopeau, les deux hommes assis sur leur siège de cuir et la vieille femme lovée contre la paroi interne de l'habitacle sphérique, ils mangèrent leur barre alimentaire et burent de l'eau à la bouteille tout en contemplant la tempête dans un silence total. Daeman avait prié sa vie de s'éloigner du champ de maïs, de la croix et de la créature. Aussi avait-elle roulé 2 ou 3 kilomètres avant de se ranger au bord de la route, désactivant tous les systèmes du rampeur, excepté son champ de force et ses contrôles virtuels. « Qu'est-ce que c'était que cette créature ?» demanda Daeman au bout d'un long moment.
« L'un des Calibani, » répondit Savi.
Elle semblait parfaitement à son aise, allongée sur le verre incurvé, la tête calée sur son sac à dos.
« C'est comme ça que tu les appelles, je sais !»
répliqua sèchement Daeman.
« Je veux savoir ce que c'est !»
Savi poussa un soupir.
« Si je commence à expliquer une chose, il va falloir que je les explique toutes. Et il y a beaucoup de choses que vous ignorez, vous autres, les Eloïs. En fait, vous ne savez quasiment rien.
Commence par nous expliquer pourquoi tu nous appelles ainsi, »
dit Arman d'un ton peu amène.
Au début, c'était un peu une insulte, je l'avoue.
Un éclair vint découper les rides dans son visage, mais la tempête s'était suffisamment éloignée pour que le tonnerre ne le ponctue qu'au bout de plusieurs secondes.
Mais pour être parfaitement franche, c'est un sobriquet dont j'ai affublé mon peuple bien avant l'émergence du vôtre.
« Que signifie-t-il ? » demanda Arman.
« Il s'agit d'un terme provenant d'un très vieux récit, d'un très vieux livre. C'est l'histoire d'un homme qui voyage dans le temps et débarque dans un avenir lointain, où l'humanité a fini par se dissocier en 2 espèces distinctes. La première, douce, paresseuse, inconsciente et hédoniste, les Eloïs,
La seconde, monstrueuse, productive, technologique, vivant dans des ténèbres souterraines, les Morlocks. Dans ce livre, les Morlocks procurent de la nourriture, des maisons et des vêtements aux Eloïs, jusqu'à ce que ceux-ci soient bien engraissés. Alors les Morlocks les tuent pour les manger. Un nouvel éclair illumina les champs, mais d'une lueur pâle et moribonde.
« C'est à cela que ressemble notre monde ?» interrogea Daeman. « Nous sommes les Eloïs, les Voynix et ces Calibanis sont les Morlocks. Est-ce qu'ils nous mangent ?»«
Si seulement c'était aussi simple, » dit Savi. Elle partit d'un petit rire, mais on n'y trouvait aucune trace d'humour.
« Que sont les Calibanis ?» demanda Arman.
Au lieu de lui répondre, la vieille femme lança « Daeman, montre à Arman le tour que je t'ai appris. »
L'intéressé hésita.
« Lequel ? Celui du Proxnet ou celui du Farnet ?»«
Nous savons où nous sommes, mon grand, »
répliqua-t-elle d'un ton sarcastique.
« Celui du Farnet ?»
Daeman s'exécuta non sans grimacer. Il demanda à Arman de visualiser trois cercles rouges contenant chacun un carré bleu, et soudain un ovale bleu apparut au-dessus de leurs mains.
« Pense à quelqu'un, » poursuivit Daeman.
Quelle sensation étrange.
Il n'avait jamais rien enseigné à quiconque, exception faite des pratiques sexuelles.
« À qui tu voudras, » ajouta-t-il. « Visualise son visage. »
Arman s'exécuta avec un certain scepticisme. Une vue aérienne du domaine d'Ardis emplit son ovale, puis un plan du château. Devant l'entrée principale, une silhouette féminine stylisée se tenait au centre d'un groupe d'hommes et de femmes également stylisés.
« Ada !» dit Daeman. « Tu as pensé à Ada ?»«
Incroyable !» souffla Arman.
Il fixa l'image quelques instants.
« Je vais visualiser Odysseus. »
L'image se déplaça, changea de focale, sans parvenir à un résultat quelconque.
Selon sa vie, Odysseus n'a pas été catalogué par le Farnet, expliqua Daeman. Mais revenons à Ada. Regarde où elle est.
Arman plissa le front en signe de concentration. Ada se dirigeait maintenant vers un champ situé à quelques centaines de mètres du château. Il s'y trouvait déjà plusieurs vingtaines de silhouettes humaines assises en rond. Ada se joignit à elle. Daeman fixa l'image.
Je me demande ce qui se passe. Si Odysseus se trouve au centre de cette foule, on dirait bien que le vieux barbare est en train de faire un discours.
Et Ada est en train de l'écouter ou de le regarder faire son numéro.
Arman détourna les yeux de son ovale.
Quel est le rapport avec ma question, Savi? Qui sont les Calibanis? Pourquoi les Voynix ont-ils essayé de nous tuer? Que se passe-t-il?
Quelques siècles avant le dernier fax, dit-elle en joignant les mains, les post-humains ont voulu faire les malins. Leur niveau scientifique était des plus impressionnants. Certes, ils s'étaient réfugiés dans leur cité orbitale pour fuir l'épidémie Rubicon, mais ils demeuraient les maîtres de la Terre, et ils se croyaient les maîtres de l'univers. Les postes avaient équipé la Terre entière de cette forme limitée de transmission et de récupération de données et d'énergie que vous appelez le fax. Et ils faisaient maintenant des expériences, ou plutôt ils faisaient joujou, avec le voyage temporel, la téléportation quantique et autres pratiques dangereuses. Nombre des activités auxquelles ils se livraient avaient été prévues par la science des anciens, parfois dès le 19e siècle. La physique des trous noirs, la théorie des trous de ver, la mécanique quantique... Mais il s'appuyait avant tout sur une découverte datant du XXe siècle, et affirmant que tout est information. Les données, la conscience, la matière, l'énergie, tout est information.
« Je ne comprends pas, » dit Arman qui semblait fâché.
« Daeman, tu as montré à Arman la fonction Farnet. Veux-tu bien lui montrer la fonction Allnet ?»«
Allnet ?»
répéta Daeman, affolé.
Tu sais bien, quatre rectangles bleus au-dessus de trois cercles rouges, eux-mêmes au-dessus de quatre triangles verts.
Non !
Daeman désactiva la fonction en cours. L'ovale bleu s'évanouit. Savi se tourna vers Arman.
si tu veux être en mesure de comprendre ce que nous faisons ici cette nuit. Pourquoi les post-humains ont déserté la Terre? Pourquoi les Voynix et les Calibani y ont débarqué? Visualise quatre rectangles bleus au-dessus de trois cercles rouges, au-dessus de quatre triangles verts. Avec un peu d'entraînement, on finit par y arriver sans peine.
Arman jeta un regard soupçonneux à Daeman, puis ferma les yeux pour mieux se concentrer. Daeman, lui, se concentra pour ne pas visualiser le schéma. Il se focalisa sur le souvenir d'Ada adolescente, nue dans son tub, sur sa dernière nuit d'amour avec une fille, sur les remontrances de sa mère.
« Mon Dieu !»
s'écria Arman. Daeman se tourna vers lui. Il s'était redressé au-dessus de son siège et la bouche grande ouverte, regardait tout ce qui l'entourait avec des yeux de démon.
« Que vois-tu ? »
demanda sa vie à voix basse.
« Qu'entends-tu ? »
« Dieu ! Dieu !»
gémit-il.
« Je vois ! Seigneur ! Tout ! Tout ! De l'énergie ! Les étoiles chantent ! Les plants de maïs parlent ! Ils se parlent entre eux ! Ils parlent à la terre ! Je vois ! Le rampeur grouille de microbes qui le répare, le refroidissent. Je vois. Mon Dieu ! Ma main !
Arman considérait sa propre main avec un mélange de terreur et d'émerveillement.
Ça suffira pour une première fois, dit Savi. Pense désactivation.
Pas encore,
hoqueta Arman. Il se cogna contre la vitre et la griffa faiblement, comme s'il voulait sortir.
C'est si beau. Je pourrais presque...
Désactivation ! Rugit sa vie. Arman sursauta, s'effondra contre la cloison de verre et tourna vers eux un visage livide.
Qu'est-ce que c'était que ça ?
Demanda-t-il.
Je voyais tout. J'entendais tout.
Et tu ne comprenais rien, rétorqua sa vie.
D'un autre côté, je ne comprends rien moi non plus quand j'accède à l'Olnet.
Peut-être que les post-humains eux-mêmes en étaient incapables.
Arman regagna son siège en chancelant.
D'où est-ce que ça venait?
Il y a des millénaires, les véritables humains à l'ancienne ont développé une écologie de l'information primitive qu'ils ont baptisée l'Internet. Ils ont fini par décider de dompter l'Internet. Et ont créé pour ce faire une entité du nom d'Oxygène, un conglomérat d'intelligence artificielle flottant au-dessus et en dedans de l'Internet, et ayant pour mission de le diriger, de le connecter, de le baliser, d'y guider les humains lorsqu'ils cherchaient des gens ou des informations.
« Le Proxnet ?» dit Daeman. Il tremblait de tous ses membres, et il n'avait même pas accédé au Farnet ni à l'Olnet.
Sa vie acquiesça. C'est ce qui a donné le Proxnet.
Oxygène a évolué jusqu'à devenir la nousphère, c'est-à-dire une logosphère, une datasphère à l'échelle de la planète. Mais cela n'a pas suffi aux post-humains. Ils ont connecté cette nousphère, ce super-internet, à la biosphère formée de tous les composants vivants de la Terre. L'ensemble composé de toutes les plantes, de tous les animaux, tous les ergues d'énergie de la planète, une fois connecté à la nousphère, a créé une écologie de l'information totale et complète, en contact avec tout ce qui participait de la Terre, une omnisphère consciente à laquelle il ne manquait que la conscience de soi et l'identité. Alors, ces crétins de post-humains lui ont donné cette fameuse conscience de soi, allant non seulement jusqu'à concevoir une intelligence artificielle pour la gérer, mais permettant à celle-ci d'acquérir sa propre persona. Cette super nousphère s'est baptisée Prospero. Ce nom signifie-t-il quelque chose pour vous?
Daeman fit non de la tête et se tourna vers Arman, mais celui-ci, en dépit de ses lectures, était tout aussi ignorant que lui.
Peu importe, fit sa vie. Voilà que les post-humains avaient un opposant, qu'ils étaient incapables de contrôler. Et ce n'était pas fini.
Les post-humains avaient mis en route d'autres types de programmes et de projets auto-évolutifs, laissant leurs ordinateurs quantiques poursuivre des buts qui leur étaient propres. Aussi impossible que cela paraisse,
ils ont réussi à obtenir des trous de verre stables, à maîtriser le voyage dans le temps. Et ils ont envoyé des cobayes, des humains à l'ancienne bien entendu, il n'était pas question pour eux de risquer leurs immortelles vies, dans des portails spatio-temporels, par le biais de la téléportation quantique. Quel rapport avec les Kalibani ?
Insista Harman, toujours secoué par les images de l'Olnet qui s'attardaient dans son crâne.
Sa vie sourit. Soit l'entité du nom de Prospero avait un sens de l'ironie extrêmement développé, soit elle n'en avait aucun. Elle a baptisé Ariel, la biosphère consciente, une sorte d'esprit terrestre. Et ensemble, Ariel et Prospero ont créé les Kalibani. Ils sont partis d'une souche humaine, qui n'étaient ni les humains à l'ancienne, ni les postes, ni les Eloïs, pour aboutir au monstre que vous avez vu sur sa croix tout à l'heure.
Pourquoi ?
Demanda Daiman d'une voix étouffée. Sa vie haussa les épaules.
Pour leur servir de nervi. Prospero aime à se croire pacifique. Mais ces Kalibani sont des monstres, des tueurs.
Pourquoi ?
Demanda à son tour Daiman.
Pour arrêter les Voynix, répondit la vieille femme. Pour chasser les post-humains de la Terre avant qu'ils ne commettent de nouveaux dégâts. Pour réaliser les caprices qui s'emparent de Prospero et d'Ariel, ces deux éléments de la trinité nousphérique.
Daiman s'efforça de comprendre tout cela. Il y échoua. Pourquoi cette créature était-elle sur une croix ? Demanda-t-il finalement.
Elle n'était pas sur la croix, répliqua sa vie. Elle était dans la croix. C'est un berceau de rechargement.
Pourquoi les postes ont-ils créé les Voynix ?
Demanda Harman. Il était si pâle que Daiman le crut sur le point de défaillir.
Oh, ce ne sont pas eux qui ont créé les Voynix, dit sa vie. Les Voynix viennent d'ailleurs et ils servent un autre maître, qui a ses propres objectifs.
J'ai toujours cru que c'était des machines, intervint Daiman, comme les autres serviteurs.
Eh non,
fit sa vie. Harman fouilla la nuit du regard. Il avait cessé de pleuvoir et la tempête avait disparu derrière l'horizon. Quelques étoiles apparaissaient entre les lambeaux de nuages.
Ce sont les Kalibani qui empêchent les Voynix de pénétrer dans le bassin, déclara-t-il.
C'est l'une des choses qui tiennent les Voynix à l'écart.
Oui.
Sa vie semblait ravie, un peu comme une institutrice constatant que l'un de ses élèves n'était pas un demeuré total.
Mais pourquoi les Kalibani ne nous ont-ils pas tués ?
Demanda Harman.
C'est grâce à notre ADN.
À notre quoi ? Lança Daiman.
Peu importe, mes chéris. Qu'il me suffise de dire que je vous ai emprunté à chacun une mèche de cheveux, que j'en ai également prélevé une sur ma personne et que cela nous a sauvés. J'ai passé un accord avec Ariel, voyez-vous. S'il nous laissait passer, pour une fois, je lui promettais de sauver l'âme de la Terre.
Tu as rencontré l'entité Ariel ?
Demanda Harman.
Rencontré ? Pas vraiment, répondit sa vie. Mais je me suis entretenu avec elle via l'interface nousphère-biosphère. Et nous avons passé un marché.
Daiman eut alors la certitude que la vieille femme était folle. Il surprit le regard que lui adressait Harman et vit que celui-ci était parvenu à la même conclusion.
« Peu importe !» dit sa vie.
Elle brassa son sac à dos comme s'il s'agissait d'un oreiller, s'y cala la tête dessus et ferma les yeux.
« Dormez bien, mes jeunes chéris.
Demain, il faudra être en pleine forme.
Demain, avec un peu de chance, nous nous envolerons jusqu'en orbite. »
Elle ronflait paisiblement avant qu'Harman et Daiman aient eu le temps d'échanger un nouveau regard inquiet.